Et si nous parlions de tout ce qui se passe dans notre ventre? Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur de podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, je vous propose ma discussion avec Elodie, une diète en basket. Au départ, nous ne devions parler que du gluten, car c'est un sujet qui questionne beaucoup, moi le premier. Surtout que depuis que certains sportifs vantent leur régime sans gluten. Je dois le dire, j'ai moi-même essayé un mois sans gluten, et j'en ai même fait un mini-podcast, No Gluten Bear. Mais quand on parle gluten, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'autres éléments, car la digestion est un système très complexe. Alors avec Elodie, nous avons balayé de nombreuses questions. Les fibres, les FODMAP, le glycogène, le sucre, la récupération, les soucis gastriques, le chocolat, le beurre cacahuète, le barbecue, les frites, les hamburgers, et même le fameux pipi, le caca de la peur. Si, si, vous savez de quoi je parle. Ce sont autant de sujets qui nous préoccupent ou questionnent beaucoup dans notre vie quotidienne et notre pratique du sport. Allez, c'est parti. Bonjour Elodie.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Ça va, merci, et toi?
Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'il me pose beaucoup de questions. Et je suis sûr qu'il pose des questions à plein de monde, parce que tout le monde en entend parler. Il y a des, j'ai envie de dire, ça fait partie des grands méchants. Il y a des grands méchants dans plein de domaines, dans plein d'activités. Et là, en nutrition, on a, semble-t-il, un grand méchant. Alors on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour nous dire c'est quoi, qu'est-ce que tu fais?
Donc, je m'appelle Elodie Fourtier, je suis diététicienne, nutritionniste, donc depuis 2010, et j'ai enchaîné avec un diplôme universitaire nutrition du sportif pour me spécialiser vraiment sur l'alimentation et le sport. Et voilà, je reçois pas mal de sportifs dans mon cabinet pour parler de l'alimentation avant effort, pendant effort, après effort. Voilà.
Bon, j'ai un petit peu les chocottes parce que si je dis des conneries sur l'alimentation, là d'un coup, là j'ai une spécialiste. Alors, je vais me méfier, mais quand même, quand je parlais de ce grand méchant, hein, j'ai envie de dire, hein, ça fait un peu le, comme le grand méchant loup, je voudrais parler du gluten parce que ce gluten, on en entend parler, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est un effet de mode, s'il y a des trucs qui ont changé ou quoi que ce soit, on a l'impression quand même qu'il y a quelques sportifs qui ont été des accélérateurs de sans gluten, hein. Moi, dans ma tête, il y a Djokovic qui, le jour où il annonce qu'il arrête le gluten, et tout le monde a l'impression de dire, hey, c'est bon, on devient champion du monde en étant numéro un mondial sans, parce qu'il mange plus de gluten. C'est une impression ou c'est une réalité en fait, cette histoire de tendance là?
Alors, c'est vraiment un effet de mode, c'est sûr, puisqu'avant, on n'en parlait pas. Après, il y a des réelles maladies qui nécessitent, hein, ce sans gluten. Et il y a des maladies ou des sensibilités aussi. Hein, ce sont deux choses quand même assez différentes. Mais grand méchant est vraiment un peu péjoratif pour ce gluten, car il n'est pas mauvais pour les personnes qui le tolèrent très bien. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Et avoir vraiment en fonction de toutes les personnes, parce que c'est vraiment des tolérances personnelles et non à prendre à la légère en disant c'est le régime. Alors régime, pas dans le sens perte de poids, hein, mais le régime miracle qui va faire des performances sportives de dingue. Donc non, pas du tout.
Non, mais je suis sûr quand même que quand il y a des gens, des sportifs qui viennent te consulter, il y en a qui se posent la question, ils disent « faut que j'arrête le gluten, faut que j'en mange moins, faut que j'en mange plus, j'ai mal au ventre, je me sens gonflé, je me sens ça, c'est à faute du gluten ».
Alors, tout n'est pas à cause du gluten, bien évidemment. Alors, ça peut être à cause du gluten, hein, s'il y a la maladie cœliaque, mais bon, en général, c'est une maladie qui se déclare assez jeune, donc on est vite au courant qu'on est intolérant au gluten. Ça peut être une sensibilité et dans ce cas-là, en voyant l'alimentation du patient, on peut se rendre compte que oui, il peut y avoir une sensibilité au gluten. Mais ça peut être aussi des gens qui s'hydratent mal, des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, qui n'ont pas d'alimentation variée, équilibrée, qui mangent trop de fibres avant effort. Voilà, il y a beaucoup de causes sur les problèmes digestifs et ce n'est pas qu'à cause du gluten. Il faut vraiment se retirer ça de la tête.
Alors, déjà, on va dire ce que c'est que le gluten. Et parce que finalement, les gens, ils l'apprécient quand ils le mangent.
Oui, alors le gluten, c'est une protéine qui se trouve principalement dans les quatre céréales qui sont, alors pour le moyen mnémotechnique, un sabot: seigle, avoine, blé et orge. Donc le blé, les fameuses pâtes et les pâtes à partie avant effort. Donc oui, en effet, nous sommes quand même de grands consommateurs de gluten de base, c'est vrai.
Et puis il faut le dire aussi, c'est que moi je le constate un petit peu, parce que quand on essaie de manger un peu sans gluten, avec des farines sans gluten, la pâtisserie sans gluten, le pain sans gluten, c'est pas tout à fait pareil, parce que le gluten il fait une partie d'élasticité, il fait tout un tas de trucs comme ça là.
C'est ça, il aide beaucoup dans les techniques culinaires. Hein. Donc le sans gluten, c'est vrai qu'après, ce sont aussi des farines. Donc les farines sans gluten, je peux citer la farine de châtaigne qui peut avoir quand même un goût assez spécial. Bon après, quand c'est maïs type, alors je cite pas de marque, mais maïzena, ça c'est assez neutre, donc ça va. Mais après, les farines de pois chiches et tout ça, faut savoir qu'il y a quand même aussi un apport en fibres très important qui peut vraiment causer d'autres désordres digestifs. Donc en retirant le gluten, on peut apporter d'autres soucis. Il faut faire très attention.
Et oui, alors l'un des sujets dont on parle, et en fait l'autre jour j'ai eu une question, c'est marrant, parce que quelqu'un m'a posé une question, m'a dit, comment on fait quand on a des problèmes digestifs quand on court? Et là tout d'un coup, bien sûr que ça, on revient sur ces questions-là, des intestins irritables, je sais même pas d'ailleurs si c'est une vraie appellation, si c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a une maladie là-dessus ou enfin en
Alors,
disant.
bah en fait, chaque problème digestif a sa maladie, en fait. C'est une conséquence d'un désordre, en fait, le problème digestif. Donc, ça peut être, voilà, vraiment les maladies, la maladie cœliaque, ça peut être l'hémicycle, donc c'est-à-dire la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Donc là, ce sont aussi d'autres maladies auto-immunes qui génèrent vraiment des gros problèmes digestifs. Mais ça peut être aussi les syndromes dus au FODMAP. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ces fameux sucres qui fermentent dans notre organisme, ça peut aussi jouer énormément. Et puis, ça peut être juste dû à des déséquilibres alimentaires qui engendrent de gros problèmes digestifs. Il faut savoir que le problème digestif et le sport, c'est une conséquence aussi assez normale, étant donné que lorsqu'on court, ou un autre sport, mais bon, j'ai l'habitude de la course à pied et du triathlon, mais lorsqu'on court ou d'autres sports, vraiment, il y a le sang qui va vers nos muscles, vers notre cœur et tout ça. Mais le tube digestif est totalement ischémié, et ça, vraiment, ça engendre de gros problèmes digestifs. Donc, ce n'est pas forcément dû à une pathologie, mais juste à une conséquence d'un métabolisme qui se fait pas super bien dans le corps.
Oui, alors tiens, on va reparler de l'histoire de l'ischémie, parce que dans un épisode précédent, Vanessa Morales en avait parlé, que son guide sur le Kilimandjaro avait eu. Il failli en mourir, en fait, tout simplement, parce que il avait eu un gros, gros, gros pépin, et elle nous avait expliqué que lui, il avait. Elle mange pas beaucoup, mais lui, il avait trop mangé, et qu'à bout d'un moment, son corps avait mal réagi. Sans aller jusqu'à ces risques-là, ce phénomène-là de l'ischémie et ses conséquences, on les connaît un petit peu quand on rentre de certains entraînements.
Oui, en effet. Donc, l'ischémie du tube digestif, c'est-à-dire que vraiment le tube digestif, il n'est pas irrigué. Et puis, s'il y a encore de l'alimentation qui stagne dans tous ces tuyaux, il y a un phénomène qui fait que ça va appeler de l'eau. Et puis, il y a des diarrhées derrière, il y a des ballonnements. Et ça peut aller vraiment jusqu'à la perte de sang. Hein. On l'a vu chez Johan Diniz lors d'une marche. Une marche, je crois que c'était sur les 50 km où il a fini en sang parce que le tube digestif dit stop et ça irrite et puis là, hein, il y a un moment donné où les conséquences peuvent être dramatiques.
C'est dû à quoi? C'est-à-dire que c'est trop d'alimentation à un moment donné? C'est quoi? C'est.
Alors, l'ischémie, ça peut être dû, à un bol alimentaire qui n'a pas encore fait tout son chemin et qui, du coup, reste stagnant dans le tube digestif et il n'y a pas de moyen de le digérer, ce bol alimentaire. Donc, souvent, c'est une prise alimentaire trop proche de l'activité physique. Souvent, on préconise quand même le dernier repas. Bon, après, il peut y avoir des petites collations, mais le dernier repas, 3 heures avant. avant le sport. Donc ça, c'est quelque chose à faire très attention. Ça peut être un système digestif trop lent. Et ça, à force, on se connaît. Et donc, on retarde encore plus le repas. Ça peut être des soucis d'hydratation. La déshydratation peut aussi entraîner ce phénomène de chasse d'eau, parce que je l'appelle vraiment comme ça. C'est dans tous les sens, ça s'appelle une chasse d'eau, quoi. Donc voilà, en gros, il y a le principal moyen d'éviter cette ischémie, du moins les conséquences de cette ischémie, parce que l'ischémie, on l'a à un moment ou à un autre, mais les conséquences de cette ischémie, c'est vraiment d'avoir un tube digestif pas trop rempli, quoi.
Oui, parce qu'il faut le dire, c'est un phénomène tout à fait naturel, hein, c'est que le corps, il envoie du sang, il envoie tout ce qu'il faut vers les jambes qui courent, vers tout ce qui bouge.
C'est ça, exactement. Donc le tube digestif, c'est quand même pas l'organe principal à irriguer, quoi, dans ces moments-là.
Et c'est donc pour ça d'ailleurs quand il y a des problèmes de digestion et tout, et on le dit, mais je le répète souvent, hein, c'est que les problèmes digestifs sont l'un des plus gros facteurs d'abandon sur les courses. Hein, les gens, on parle des chutes, on parle des gamelles, on parle je sais pas, de malaise ou de je sais pas quoi, mal des montagnes, à émis, d'hallucinations. Mais en fait, il y a les grosses parties des abandons, et ça chiffre beaucoup, ça vient par grande partie de ces problèmes digestifs.
Oui, exactement. C'est vraiment le souci principal. Alors, il y a aussi l'innovation, hein, par exemple, de prendre sa boisson énergétique ou son gel énergétique qu'on n'a jamais testé à l'entraînement. Alors ça, en général, le corps, il dit « Tu me rajoutes un fraise de me mettre dans une course et tu me donnes quelque chose de nouveau ?» Non, c'est pas possible. Il le rejette définitivement. Les problèmes digestifs, c'est signe d'abandon, parce que si c'est des douleurs gastriques, parce qu'on parle souvent du bas, mais ça peut aussi être vraiment sur la partie supérieure du tube digestif, mais des grosses brûlures gastriques avec des crampes d'estomac, ça arrive régulièrement. Et puis ensuite, les points de côté. Alors le point de côté, en général, hein, il est digestif, hein, c'est vraiment en lien avec l'alimentation. Et donc voilà. Et puis après, le problème de trouver des toilettes très rapidement, souvent c'est signe d'abandon en effet.
Alors attends, tu dis que le point de côté, c'est souvent lié à l'alimentation en fait?
Oui, parce que c'est pas. Il y a quelque chose toujours ce système de bol alimentaire dans l'intestin qui passe pas, quoi. Donc voilà. Alors, il y a l'histoire de la rate, hein. On sait que la rate peut provoquer des points de côté. C'est pour ça qu'on dit courir comme un dératé quand on court vite. Mais il y a aussi ce problème digestif, en fait, qui lie vraiment. Et c'est pour ça que le point de côté n'est pas toujours au même endroit, quoi. N'est pas à côté de la rate.
D'accord. Ah bah tu vois, moi j'ai appris un truc. Moi je crois que le point de côté, c'est parce qu'on courait trop vite, c'est quand on était gamin. Ce qui m'arrive plus jamais, moi, de courir trop vite. Donc tu sais, maintenant.
Mais voilà, il peut être dû à la rate, mais il peut être dû aussi au transit, quoi, au tube digestif.
Ouais, mais en fait, je pense qu'on en rigole, mais tout le monde a eu ces problèmes-là. Puis un jour, j'ai fait un live sur YouTube et j'ai dit un jour, il faudra vraiment qu'on parle de ces problèmes et tout. J'ai dit, il faudra qu'on fasse un épisode sur le caca. Parce que je pense que tout le monde, mais tout le monde, a eu ce truc de avant, pendant, après, qu'à un moment donné, on essaye de boucher les trous, de tout ce qu'on peut, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, j'en ai des anecdotes et c'est souvent, alors, tu vois, moi, j'ai souvent le problème sur les courses le soir. Les départs de courses le soir, je sais que j'ai fait deux courses ou trois courses avec des départs à 20h ou 19h, tu vois, en hiver. Et ben systématiquement, tu peux être sûr, je ne sais pas manger avant.
Oui, parce que c'est vrai que le matin, en fait, il y a déjà eu le jeûne nocturne, hein, qui a laissé le temps au tube digestif de bien travailler tranquillement. Et on arrive le petit-déj. Bon, le petit-déj, en général, on le maîtrise régulièrement, hein, parce que on a l'habitude de courir, de faire nos entraînements le matin, le dimanche matin. Voilà, donc ça change pas trop notre routine en fait habituelle. Quand on a une course le soir. Alors, on peut faire aussi des entraînements le soir, mais souvent des entraînements le soir, quand c'est des entraînements, ça va être du spécifique, ça va pas être de la course, ça va pas être un trail nocturne, ça va pas être tout ça. Donc, On va arriver le soir en ayant bien mangé le matin, en ayant bien mangé le midi, en ayant peur à 4 heures, en mangeant avec une boule au ventre terrible. Et puis, voilà, on se dit le dernier repas à 4 heures, j'ai le départ à 19 ou 20 heures. Est-ce que je dois manger qu'une collation? Est-ce que je dois manger un repas? Est-ce que, voilà, donc, moi, en général, je conseille un petit déj parce que, pour le coup, on le connaît, ce repas. C'est vraiment, en fait, faut tester. C'est vraiment le maître mot pour les soucis digestifs, c'est de jamais innover ou d'innover pendant les entraînements où il n'y a pas de risque, au pire, il n'y a pas de contre-performance et puis on rentre chez soi et tant pis. Mais sur une course, faut vraiment avoir tout testé avant et combien de temps avant on est à l'aise. Et voilà, mais et puis il faut faire attention aussi au repas du quand c'est pour le soir, au repas du midi qui soit pas trop riche en fibres, hein, parce que si on mange un repas avec pas mal de crudités ou des fruits crus ou voilà, ça peut irriter quand même le tube digestif pour les heures à venir. Donc il faut faire vraiment attention à tout ça.
C'est quand on dit comme ça, quand même, ça fait partie des éléments que certains peuvent trouver compliqués à gérer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un podcast sur le sujet, parce que chacun y va de ses astuces. Et puis, alors en plus, il y a le pire, c'est que dessus, il y a plein d'astuces qui se rajoutent, et c'est là où ça devient drôle. Il y a des croyances aussi, etc., sur les choses comme ça. Moi, je sais, par exemple, mais je sais qu'avec l'habitude, par exemple, le flan aux œufs ne passe pas du tout à l'entraînement. C'est-à-dire que le goûter avec ma fille, si c'est un flan aux œufs, tu peux être sûr que le soir, sur la piste, à 18h30, que l'entraînement commence, l'échauffement, ça va. Mais au temps de 19h, quand ça se met à faire des fractionnés, mon ventre il dit « Oh, hey, oh, mon gars, là, t'as vu ce que t'as mangé avant, tu t'arrêtes. »
Alors, les œufs, c'est souvent à éviter avant entraînement ou voilà. Parce que, alors, chez certaines personnes, hein, parce qu'il y a des gens qui prennent des œufs et aucun souci, mais chez certaines personnes, en fait, il y a une chasse biliaire, hein, c'est-à-dire que la vésicule biliaire envoie pas mal de bile pour digérer ces œufs et bah, derrière, des conséquences digestives importantes, quoi. Mais pareil, tout ça, le tube digestif est très compliqué parce que c'est des tolérances personnelles. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement personnel à faire dans ces cas-là. Alors, il y a des gens qui se connaissent, qui vont vraiment eux-mêmes poser un carnet alimentaire, connaître leurs réactions en fonction de ce qu'ils ont mangé, tout ça. Donc ça, c'est très intéressant et ils y arrivent par eux-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement et dans ce cas-là, c'est vraiment super important d'aller voir un professionnel de santé pour vraiment être guidé et être accompagné. Parce que comme on revient sur le sans gluten, mais le sans gluten, c'est quand même un régime très, très restrictif. Qui peut entraîner des troubles du comportement alimentaire derrière, hein, parce que qui dit restriction dit quand même un côté psychologique très compliqué. Donc, qu'un accompagnement vraiment avec un diététicien ou un médecin, ça permet peut-être des fois de jouer sur la quantité ou la fréquence des aliments et pas forcément tout éradiquer. Parce qu'il y a aussi derrière, quand on éradique des aliments, il y a aussi des carences qui peuvent se créer, il peut y avoir vraiment d'autres soucis. Et donc, il y a contre-performance sportive dans la foulée. Hein. Donc, l'accompagnement, pour moi, je pense qu'il est essentiel et à personnaliser. C'est vraiment le maître mot, quoi.
Et puis, c'est vrai que c'est intéressant. Tu disais notamment que les farines sans gluten, par exemple, ont plus de fibres. Souvent, donc que, là t'as dit que les fibres ça pouvait poser problème sur certaines choses, donc finalement on se dit bon je vais me faire du bien en enlevant cette espèce de truc là qui me semble être un peu grand méchant et que l'autre il mange plus, mais finalement si je me rajoute et puis c'est les pourcentages sont importants, je veux dire hein, là, c'est pas, on parle pas juste de 2-3 grammes de fibres, c'est que c'est des quantités vraiment très importantes la différence hein.
Oui, c'est important. Et en plus, la plupart du temps, ce sont des fibres dites insolubles. Alors, en fait, dans l'alimentation, il y a deux types de fibres. Il y a des fibres solubles. Ce sont des fibres plutôt régulatrices du tube digestif, c'est-à-dire qu'elles permettent juste d'accompagner la selle à la sortie, que ce soit en cas de constipation, en cas de diarrhée. Ce ne sont pas des fibres à éviter puisqu'elles aident vraiment à réguler le transit. En revanche, les fibres insolubles, alors il nous en faut dans notre alimentation parce que ça permet quand même d'aider aussi le tube digestif, mais en consommation excessive, les fibres insolubles ont vraiment un pouvoir de fermentation assez importante. Et du coup, on se retrouve avec des problèmes digestifs à la clé, quoi.
Oui, et c'est là où ça devient. Alors, tu dis parler des FODMAP notamment tout à l'heure sur la fermentation. Alors, on va en dire un mot parce que je suis sûr que ce mot-là, là aussi, fait partie de tout ce qui est passé. Parce que dans les revues Running, elles aiment bien faire un petit article. Attention aux FODMAP et tout. Et puis, elles te laissent avec 2 pages. Et puis après, tu es un peu bec dans l'eau, là. Alors, c'est quoi ce truc?
Donc oui, c'est bien beau de les citer, mais il faut connaître aussi, hein. Donc, ce sont en fait les fermentables, donc ceux qui fermentent, hein, des oligos dits monosaccharides et polyols. Donc en gros, ce sont des sucres qui peuvent induire une fermentation et donc entraîner un syndrome de l'intestin irritable. Donc pareil, ça va être un régime très très restrictif qui demande un accompagnement. Vraiment, toujours, faut pas se lancer là-dedans sans accompagnement. Et en fait, c'est un régime qui va se faire en 3 étapes pour connaître le degré de tolérance. C'est vraiment, on retire tous les aliments riches en FODMAP pendant 3 à 6 semaines. Donc là, il y a quand même une liste assez costaud et une toute petite liste d'aliments pauvres en FODMAP. Donc là, faut s'accrocher. Mais ça, pareil, c'est quand on a retiré toutes les autres possibilités, les autres causes d'un intestin un peu irritable, hein. Donc, c'est vraiment dans les dernières mesures où on prend ça. Et on retire tout. Ensuite, je schématise souvent avec l'exemple comme le petit bébé qu'on lui fait sa diversification alimentaire, où on réintègre un FODMAP par un FODMAP pour voir la tolérance. Et ensuite, on personnalise. Donc, ça veut dire que ben, tel aliment, il est bien toléré, on le garde. Celui-là, il n'est pas toléré, on ne le garde pas, et ainsi de suite. Et ce qui est rigolo dans les FODMAP, c'est que en aliments riches en FODMAP, on a le blé. Donc, en fait, le blé est riche en ces glucides fermentescibles et riche en gluten. Donc, en fait, on peut avoir aussi cette confusion entre c'est de l'intolérance au gluten ou c'est l'intolérance à ces sucres. Donc, il faut vraiment faire le lien entre les deux. Parce qu'il peut vite y avoir, en fait, une confusion entre ces deux choses-là. Le gluten, c'est une protéine. Et les FODMAP sont des glucides. C'est vraiment deux choses différentes.
Oui, et c'est là où ça devient compliqué, là, l'histoire, parce que finalement, comment tu testes l'un ou l'autre, comment tu sais que c'est l'un ou l'autre, d'ailleurs?
Bah, après, en fait, au niveau des tests, ça va être vraiment sur un carnet alimentaire tenu par le patient, où on va déjà retirer le gluten dans sa globalité. Sans gluten, il n'y a pas d'amélioration, c'est que c'est pas le gluten, c'est que c'est autre chose. Et ensuite, on attaque sur le régime FODMAP, et là, on se rend compte que c'est plus les sucres le problème que la protéine gluten, que le grand méchant loup.
Mais alors, tu sais, parce que moi, je te l'ai dit avant, quand on s'enregistrait, ma femme fait des études de naturopathie et le gluten, il est montré aussi un petit peu comme. Parce que, je sais pas si on peut d'ailleurs, comment je peux l'appeler. Moi, j'appelle ça l'effet colle, en fait. Tu sais, c'est comme ça englue un peu ton fonctionnement de ton corps. C'est vrai, c'est pas vrai, ces histoires, ou qu'est-ce qu'on peut en penser?
Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de retours là-dessus pour se mouiller vraiment en disant que. Moi, je parle vraiment que sur les études montrées sur le gluten, sur ce que j'ai appris à l'école et ce que j'apprends encore, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est vraiment l'histoire de l'intolérance ou de la sensibilité, mais après le reste sur la toxicité vraiment, j'ai pas de retour là-dessus pour m'exprimer, donc je préfère pas mouiller.
Non, mais tu as raison, parce que c'est un sujet qui est compliqué. Et puis, j'ai envie de dire en plus dessus, je pense qu'on a un problème, c'est l'industrialisation de notre alimentation. Parce que si on mange, si on regarde les emballages de ce qu'on achète en magasin, mais.
Il y a du gluten partout.
Et puis, c'est même le jambon. Enfin, même une tranche de jambon blanc, il y a du gluten dedans.
Non, mais c'est ça, c'est par contamination croisée, en fait. C'est l'industrie qui utilise le gluten pour produire autre chose. Par exemple, je sais pas, dans l'industrie du jambon, ils vont faire des petits pâtés de viande, par exemple, où ils vont utiliser du gluten. Donc, c'est ce qu'on appelle les contaminations croisées. Et l'industrie est obligée de mettre le mot gluten, même si la tranche de jambon n'a jamais touché le gluten. Mais ces principes de précaution, c'est quelque chose où on est assez friand en France, où vraiment, dès qu'il y a un risque d'allergie, on est obligé de le notifier. Mais le gluten, on le retrouve vraiment partout, partout, partout. C'est pour ça qu'il est super important aussi de consommer des produits les moins transformés possibles, quoi. Au moins, on est sûr de ce qu'on a dedans, on est sûr de ce qu'on fait. Et avec ou sans gluten, dans tous les cas, consommons-le. S'il n'y a pas d'étiquetage, c'est qu'il n'y a pas de transformation et au moins, il n'y a pas de risque.
Mais tu vois, par exemple, il y a des questions qui se posent parce que c'est des débats qu'il y a de nouveau au club, etc. Tu vois, par exemple, sur le pain. Bon, nous, à la maison, on mange que du pain complet. Mais le pain complet, j'ai un doute sur le fait que ça soit pas un petit peu fermenticide pour les histoires comme ça, là.
Alors si, parce que pour le coup, donc bon, s'il y a le gluten et s'il y a un souci, ok. Il y a le blé, donc il y a les fameux FODMAP dedans. Et le blé complet qui est riche en fibres insolubles. Mais alors, faut pas en faire, faut pas le bannir, hein, parce qu'il est pas mal ce blé, ce pain complet. Il est même mieux que le pain blanc en soi. Mais c'est vrai que si il y a des soucis digestifs, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil là-dessus. Après, s'il n'y a pas de soucis digestifs, continuez comme ça. Hein.
Non, mais moi je sais, tu vois, par exemple, que le matin, ma tranche de pain complet avec un petit peu de beurre, alors on va dire salé pour les Bretons qui nous écoutent, hein, parce qu'il y en a toujours un paquet, et un petit peu de miel dessus, moi je sais que, tu vois, en petit déjeuner, ça me passe super bien. Tu vois, c'est le genre de truc qui passe super bien.
Donc, bah, si ça passe super bien, autant continuer comme ça sert à rien de changer. C'est ce que je dis à tous mes patients, même avec ceux qui ont des problèmes de poids ou non, mais si vous avez ces habitudes-là et que ça passe bien, on reste comme ça. On va peut-être changer sur d'autres aliments, mais si ça passe, restez comme ça.
Moi, après, je te dis ça, mais d'un autre côté, je fais 90% de mes sorties à jeun le matin.
En effet, au moins là, il n'y a pas de problème.
Mais alors, ça, c'est une vraie question, c'est un vrai truc, et je suis pas le seul. Moi, je me sens super bien le matin à jeun, tu vois, comme ça, et même jeudi, parce que j'aime bien les courir en fin de matinée, comme mon petit déjeuner, il a 4 ou 5 heures, ça fait bien longtemps qu'il a été ingurgité ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il y a aussi un fonctionnement du corps, tu parlais de jeûne, de la nuit, etc., qui joue. Mais je suis pas le seul, en fait. Et il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais faut pas courir à jeun, etc., tu vas épuiser ton corps, qu'est-ce que tu fous, c'est pas possible. Comment on fait?
Alors, comment on fait? Comme je dis tout le temps, tout est une question de tolérance personnelle. Alors, courir à jeun, ça peut être très bien parce que voilà, le tube digestif est au repos, vraiment, on peut être à fond. Le seul truc, c'est quand même veiller à une bonne hydratation parce que à jeun ne veut pas dire déshydraté, surtout pas. Donc ça, faut vraiment faire attention à ça. Faut bien bien s'hydrater quand même avant de partir et puis pendant la course si la durée est assez longue. Et l'importance en fait quand on court à jeun, c'est surtout une bonne récup. C'est le repas d'après qui doit vraiment satisfaire les besoins qui ont été liés à cet effort physique fait à jeun. À partir de là, tu ne vas pas plus épuisé dans tes réserves que quelqu'un qui court pas à jeun. C'est pas vrai quoi. C'est vraiment on a tous des métabolismes différents. On a des gens qui vont vite piocher dans le glycogène musculaire et qui vont avoir un mur à 20 km. Il y en a qui vont jamais en avoir. Vraiment, voilà, nos métabolismes et nos corps sont faits différemment et ça se travaille aussi, hein. C'est pour ça que des fois, de courir à jeun, ça permet d'être plus endurant parce que notre corps. Certes, il est mis peut-être à un peu plus rude épreuve parce qu'il doit aller chercher dans ses réserves. Mais si, juste après, dans la demi-heure qui suit normalement l'effort, si après tu continues à bien t'hydrater et tu fais un repas assez complet, il n'y a aucun risque pour ton organisme. Bien au contraire.
Bon, tu vois, ça, je l'enregistre, je le mets d'un côté, tu vois, je dis hop, comme ça, je te repasserai quand quelqu'un me dira ça. Par contre, tu as dit un mot, et là, les gens, tu vois, qui étaient en train de courir, ils se sont arrêtés, ils ont dit, attends, elle a dit le mot glycogène. Alors, Là, je pense quand même que ça mérite qu'on fasse un petit point d'éclaircissement. Tu vois, je vais mettre un petit jingle. C'est quoi le glycogène?
Alors, le glycogène, c'est nos réserves de sucre dans nos muscles et dans notre foie. Donc ça, c'est vraiment en fait notre ressource de sucre. Une fois qu'on n'a plus rien à digérer, que voilà, il y a plus rien comme énergie, bah, notre corps, il va aller chercher de l'énergie dans le glycogène musculaire. C'est pour ça que cette énergie-là, il faut quand même veiller à ce qu'elle soit assez complète, qu'il y en ait toujours, parce qu'elle va permettre vraiment des efforts longs. Et surtout, elle va éviter que notre corps aille abîmer les muscles. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de glycogène, bah, ce qui est plus facile pour l'organisme de trouver de l'énergie, c'est dans les muscles. Et alors là, là, ça commence à faire mal. Et derrière, il peut y avoir vraiment des blessures, des crampes, des douleurs. Voilà. Donc ça, il faut faire très attention. Mais le glycogène musculaire, c'est la réserve principale de glucides dans notre organisme. C'est ça, c'est notre carburant. C'est vraiment, faut le voir comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours veiller à ce qu'on en ait assez et que les repas d'avant ou d'après effort soient vraiment complets pour vraiment remettre ses réserves à bloc et pouvoir faire une épreuve sportive très correcte.
Ouais, sauf que si je regarde les étiquettes des produits, sur le truc, j'ai pas marqué glycogène. Comment je suis plein de glycogène?
Donc c'est des glucides, hein, donc les réserves de glycogène se font essentiellement par l'apport en glucides, donc en sucre. Alors on dit simple ou complexe, on dit rapide ou lent, voilà, ça c'est des mots qu'on entend régulièrement. Donc en gros, bah, tout ce qui est, pareil, on parle aussi d'index glycémique, hein, élevé ou bas. Donc, tous ces sucres-là permettent à nos muscles d'entretenir ces réserves en glycogène. D'accord. Mais après, il faut privilégier plutôt les sources de glycémique plus bas avant effort et plutôt élevé pendant l'effort pour être sûr que nos réserves soient pas trop amoindries non plus.
Est-ce qu'il y aurait des produits, tu vois, ou qui permettent de remplir plus rapidement la petite réserve à glycogène? Parce que, enfin, en plus, j'imagine qu'il y a une production chimique, c'est-à-dire que le glucide, il rentre dans un, enfin, ça rentre, faut que le corps le transforme pour le transformer en glycogène. Donc, j'imagine qu'il y a une espèce de réaction chimique qui doit se faire à partir de ce qu'on mange, de l'eau, de l'air, de je sais pas quoi, et que ça fabrique, et qu'ensuite on stocke.
En gros, oui, c'est ça. Donc après, bah, pour vraiment que ces réserves arrivent, c'est aussi l'intérêt de manger dans la demi-heure qui suit l'activité sportive, parce que vraiment, les muscles appellent. Redonnez-moi à manger. C'est le voyant rouge, justement, de ces réserves. Et du coup, bah, si vous leur apportez tout de suite des glucides après l'effort, des glucides et des protéines au maximum, ça va vraiment aider à remettre ces réserves de glycogène en route. Donc après, oui, les sucres avalés pendant l'effort vont être utilisés aussitôt, quoi. Ça ne va pas être des sucres qui vont servir à refaire des réserves.
Mais alors, tu dis qu'il faut manger des glucides, il faut manger des protéines. Est-ce que toutes se valent, tu vois? Parce que, bon, allez, moi je vais te dire, on rentre dans les confidences. Aujourd'hui, on enregistre le 6 septembre, il fait super chaud. Je suis allé courir fin de matinée, je suis rentré, me suis fait un barbecue. C'est peut-être pas terrible.
Ça dépend ce que tu as mis dans ton barbecue. Après, si ton barbecue, c'était du poulet, du poisson, même du bœuf pas trop gras, voilà, ça peut se faire sans problème. Si ton barbecue, c'était saucisse, merguez, voilà, des produits très transformés et plutôt charcuterie, là, c'est sûr que les protéines, elles sont de moins bonne qualité et donc en effet ça ne se vaut pas, quoi. Donc et puis pareil, si avec ton barbecue t'as mangé des frites, des chips, c'est pas chouette. En revanche, si t'as fait une salade de pâtes, une salade de riz avec plusieurs petits légumes, t'as fini sur un fruit, bah c'est parfait. La confidence n'était pas bonne, c'est ça?
Non, non, alors, on va rentrer dans les trucs. C'est j'ai fait un petit chorizo là qui était super bon. Non, mais c'est vrai. Et après, j'ai mangé du pain de petite épeautre avec une salade verte. Et j'ai mangé un autre truc, parce que ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir. C'est j'ai mangé un peu de fromage de chèvre sur mon pain de petite épeautre. Et là aussi, il y a plein de gens qui courent qui me disent, mais t'arrêtes avec tes laitages, ça va provoquer des trucs en hit, les tendinites, etc. et tout. Arrête donc avec ça. Vrai ou pas?
Pas vrai. Tout est question d'équilibre, encore une fois. S'il n'y a aucun souci, il y a des gens qui consomment 5 laitages par jour, qui n'ont aucun souci de problème en hit et avec qui ça se passe très très bien. Par contre, il y a des gens qui ont tendance avec les laitages à faire des tendinites ou des choses comme ça. Et oui, dans ce cas-là, il faut faire attention et en manger moins, quoi. Donc, c'est vraiment. C'est encore une fois, on revient toujours aux mêmes choses, mais ce sont des cas personnels et vraiment chacun réagit différemment avec toutes les petites réactions chimiques qu'on peut avoir lorsqu'on ingère un aliment, quoi.
Mais c'est vrai que c'est important de se connaître, hein, et dans les invités précédents, on a eu des gens qui testaient tous les trucs juste avant. Je pense à Adrien Leroux, qui en triathlon, il va jusqu'à consommer les boissons qui seront sur les triathlons le jour de la course pour être sûr qu'il va bien les digérer le jour de la course parce qu'il peut pas les embarquer, que c'est ce que le partenaire de la marque, de la course, hein, la marque est partenaire, a dit, bah, on va vous fournir des bidons de ça, il se renseigne, il les consomme avant, etc. C'est ça aussi l'entraînement sportif, quoi.
C'est génial, c'est exactement ça qu'il faut. Faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à tout tester. Quitte parfois, quand vraiment on n'arrive pas à trouver la solution au problème, c'est même à noter un petit peu une semaine de carnet alimentaire avec les sensations, que ça soit les sensations de faim, que ça soit les sensations digestives, que ça soit les sensations même humeur, appétit, vraiment tout ça. Il faut mettre des mots sur l'alimentation, sur vraiment comment ça se passe pour mieux appréhender derrière s'il y a souci, comment les gérer, quoi.
Oui, on se rend pas compte parce que tu disais les émotions, etc. Moi, tu vois, tu m'enlèves le chocolat et les trucs comme ça, je deviens très irritable. Mais en fait, et je le dis, mais enfin, je dis en blaguant, mais je le dis pas vraiment en blaguant cette histoire-là parce que si t'as tendance, tu vois, par exemple, à une époque, je m'étais demandé le matin si je pouvais pas enlever, tu vois, genre mon fameux petit pain complet, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, le reste de la journée, c'était pas que j'étais irritable, mais c'est que j'avais envie de manger tout ce qui passait.
C'est ça. C'est un phénomène normal. On a nos aliments plaisir et faut les garder, hein. L'alimentation, c'est un plaisir, c'est un partage. Et c'est pour ça que d'être tout le temps dans la restriction et dans l'ultra-contrôle, on amène vraiment à des phénomènes après de compensation, hein, dans tous les cas, hein. Donc, si le carré de chocolat, ça fait plaisir, et ben, on le mange. Après, ce que j'insiste énormément avec mes patients, c'est le manger en pleine conscience, hein. C'est-à-dire que on a envie d'un chocolat, on le mange, mais on le déguste. On le mange pas en faisant la cuisine, non. C'est on s'assied, on se pose, on le mange, on goûte, on apprécie ses saveurs, on vraiment. C'est la dégustation et en général du coup insuffit que quand on le mange en faisant autre chose ou même par compulsion parce qu'on n'est pas en forme, ben, en général un ne suffit pas et on prend un petit peu plus et puis on se retrouve avec la tablette et puis après on culpabilise et puis en fait il nous a rien apporté ce chocolat à part de la culpabilité. Donc non, vraiment garder ces petits plaisirs et si ça vous convient, si il n'y a pas de souci derrière, mais gardez-les, quoi. Vraiment, il faut l'alimentation reste un plaisir. Ça, c'est vraiment le maître mot. Certes, c'est un besoin primaire, mais ça en fait un plaisir et un partage. Donc, il faut absolument garder les aliments plaisir.
Alors, on était parti sur d'autres sujets, tu vois. Moi, j'ai un petit peu dérivé parce qu'on a parlé de trucs comme ça. On parlait au début d'irritabilité, de problèmes digestifs, de tous ces trucs-là, là, etc. Là aussi, je pense qu'il vaut mieux tenir un petit carnet pour dire, bah tiens, j'ai mangé ça. Alors moi, le truc, c'est surtout ce que j'ai mangé la veille. En fait, je me rends compte comme je cours le matin. C'est une réponse que j'ai fait l'autre jour quand on m'a posé la question. Je dis, selon ce que je mange la veille, je sais le matin ce qui va se passer quand je suis sur le chemin.
C'est ça. Exactement ça.
Donc là aussi, je pense que le bon conseil, c'est de dire on fait un petit carnet, on note les choses et on regarde ce qui se passe.
C'est ce qu'il y a de mieux, ou après on retient, hein. Il y a des gens qui vont dire, bon, je me souviens de ce jour-là, j'ai mangé ça, je sais que c'est pas passé. Après, voilà, il n'y a pas besoin forcément d'une grande assiduité, mais si les gens veulent vraiment connaître où est le petit souci, le mieux c'est de tenir un carnet, je vous dis, avec ce qu'on a mangé et les sensations derrière. Et ça aide beaucoup, quoi.
Moi, je le sais systématiquement, tu vois, maintenant, les dimanches matins, quand c'est le lendemain d'un repas chez maman, en général,
Il y a une contre-performance physique
il
derrière.
n'y a pas une contre-performance physique, il y a des précautions à prendre avant de partir de la maison, parce que sinon, mais c'est vrai, mais après, ma mère, je dis, mais très, quand j'ai fait mon marathon, et quand je fais des courses, et qu'elles sont le dimanche, je dis, non, non, je viens pas manger samedi. Parce que je sais après ce qui va se passer, etc. Et tout le monde en rigole de ces trucs-là et tout. Mais avant les courses, le fameux petit pipi de la peur, le petit caca de la peur, etc. Qui n'y est pas passé?
J'y suis encore passée ce week-end. J'avais un triathlon. Mais voilà, mais tout le monde, après, on sait que notre tube digestif, c'est comme on dit tout le temps, même ça. Du coup, si on est stressé, en général, ressent énormément sur le tube digestif et obligatoirement, bah, derrière, il y a le péristaltisme. Hein. Le péristaltisme, c'est les mouvements du tube digestif qui aident à la sortie des selles. Et du coup, bah, il est un petit peu accéléré. Et puis, bah, du coup, il y a le caca ou même le pipi de la peur dans la foulée, quoi.
Et qui est un truc très, 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 très hors temps de t'en parler parce que c'est toujours, il y a toujours la queue avant les départs, etc. J'ai mon image du marathon de Paris où les premières toilettes au bout de 5 ou 10 km, il y a la queue, mais c'est pas possible. De même que la première grande allée où il y a des arbres sur le bord et tout, hop, il y a les messieurs qui s'arrêtent d'un côté, les femmes qui s'arrêtent de l'autre, etc. Donc, c'est, je pense qu'on est tous égaux dessus. Alors, pas sûr comment ça va se passer parce que tu le disais, même des grands champions, hein, tu parlais de Johan Diniz, y compris sur des championnats du monde et Jeux Olympiques, il en a souffert, alors que pourtant il a fait des milliers, des centaines de milliers de kilomètres. Donc ce qui veut dire que même un sportif de haut niveau peut se faire avoir en fait par ces choses-là, quoi.
Mais complètement. Après, c'est pas forcément son alimentation qui l'a changé ou quoi que ce soit. C'est juste son corps qui a pas envie de répondre de la même manière qu'il a répondu jusque-là. Hein. C'est tout.
J'avais lu des trucs hein, sur le fait qu'il tournait dans son hôtel en tournant en boucle, etc. Qu'il devait y a sûrement plein de causes en fait. C'est ça qui est compliqué parce que on se dit il peut y avoir l'alimentation. Donc là c'est le sujet dont on parle. Mais tu disais l'histoire de que c'est notre deuxième cerveau. Mais c'est même à vrai dire c'est que c'est vrai parce qu'il y a des neurones qui sont là. Donc il y en a autant que dans la tête. Donc il y a une logique, il y a des connexions qui se font. Et donc en fait il y a un enchevêtrement de tout ça. C'est-à-dire que entre les émotions, entre comment on sent, entre même j'ai envie de dire peut-être le sommeil peut-être peut avoir un impact sur la digestion.
Oui, tout à fait. Hein. Ça peut jouer, si le sommeil n'est pas bon, ça peut jouer sur le reste. Hein. De toute manière, faut pas. Tout joue sur le tube digestif, quoi. L'inactivité joue sur le tube digestif, l'hyperactivité joue sur le tube digestif, le stress joue sur le. Les médicaments, on n'en a pas parlé, mais la prise de certains médicaments, tout ce qui est ibuprofène, aspirine, tout ce qui est voilà les. Ce qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces médicaments-là ont un effet quand même qui peut être très très irritant pour le tube digestif. Donc ça peut jouer aussi. Tout ce qui est corticoïdes et tout ont tendance à la constipation. Tout ce qui est antidouleur, ça a tendance à la constipation. Donc vraiment. Il y a énormément d'électrons qui gravitent là, qui vont dire ça va bien se passer ou ça va pas bien se passer, quoi. Il faut tout prendre en compte.
Il y a des aliments, enfin après tu vas dire bon ça dépend de tout le monde etc. Mais quand même il y a quand même des aliments qui on sait que on doit les éviter. Par exemple avant une course on se dit ou une compétition un entraînement. Tout à l'heure on parlait des œufs, de l'histoire des œufs, mais je pense qu'il y a d'autres aliments où on sait que il y a quand même des susceptibilités que ça soit plus risqué que d'autres.
L'alcool, déjà, c'est pas un vrai aliment, mais bon, ça fait souvent des petits ravages au moment de la course, hein, faut pas rêver. Il y a tout ce qui est souvent les acides gras saturés, donc c'est-à-dire tout ce qui est les lipides qu'on voit souvent sur les étiquettes. Donc tout ce qui est assez très gras, en général, c'est vraiment le dernier truc qu'on digère. Dans notre tube digestif, on digère d'abord les glucides, ensuite les protéines et enfin les lipides. Et donc, si les lipides, bah, on en a avalé une grosse quantité, et ben le temps qu'ils arrivent à la sortie, il se passe un certain temps. Et du coup, ça peut engendrer des problèmes digestifs. Et puis, bah, tout ce qui est fibres insolubles, hein, donc qu'on trouve dans les céréales complètes, dans certains légumes, des légumes riches en fibres et qui vont être consommés crus, vraiment. Là, ça peut jouer sur l'irritabilité du tube digestif. Ouais.
Et est-ce qu'à l'inverse, il y en a où on sait que eux, ils sont mieux que vraiment, c'est les trucs, tu vois, je te demande pas une potion
Le
magique, mais...
riz. Non, mais le riz, c'est vrai que pour le coup, qu'on soit avec ou sans gluten, il passe puisqu'il n'y a pas de souci, il y a très peu de FODMAP et il n'y a pas de gluten, donc c'est réglé, hein, ça peut ne pas poser de souci. En féculent, il peut y avoir tout ce qui est quinoa, par exemple, hein, ça peut très bien passer aussi. Après, les fruits, il faut les consommer plutôt cuits, hein, sous forme de compote. Au moins, on a en fait la cuisson ramollit la fibre et le fait de mixer, hein, puisque c'est mixé une compote, le fait de mixer, ça casse aussi les fibres. Donc, en fait, la digestibilité va être augmentée et il va y avoir moins de risques de troubles digestifs derrière. Les protéines, en général, ne posent aucun souci. Mis à part la protéine de l'œuf, mais c'est pas la protéine de l'œuf, hein, qui pose le souci, c'est plutôt les lipides qui sont dans l'œuf qui peuvent générer une chasse biliaire derrière. Et puis en gros, oui, voilà, ce sont les principaux éléments qui passent bien, quoi.
Beurre cacahuète, tu le mets dedans parce que moi je suis un grand consommateur de beurre
Beurre de cacahuète,
cacahuète.
oui, beurre de cacahuète, les beurres d'oléagineux, il n'y a pas de souci.
Mais alors c'est une blague parce que moi je sais, moi j'adore beurre cacahuète et purée d'amande et compagnie. Et ça fait rire tout le monde parce que dans ma vie j'ai perdu 28 kilos et les gens ils me voient manger du beurre cacahuète, etc. Et ils disent mais c'est quoi ton bordel? Pourquoi tu manges du beurre cacahuète alors que t'as perdu autant de poids? Et je leur dis, mais regardez juste que c'est fait. Alors attention, hein, il y a purée cacahuète, etc. Voilà, il y a beurre cacahuète et beurre cacahuète. Mais regardez juste la composition du beurre cacahuète et vous allez voir que c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et donc ça passe bien.
En effet, parce que les acides gras qui sont dans les fruits oléagineux sont de très bons acides gras et qui sont importants pour notre organisme. Donc, il n'y a aucun souci de manger du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande ou du beurre de noix de cajou, c'est excellent aussi. Vous pouvez varier, il n'y a aucun problème.
Tu sais, je te parlais du beurre, tu sais, je te disais les tartines de beurre, etc. Est-ce que les huiles, tu vois, tu parlais des lipides, parce que c'est un truc qui est important. Est-ce que tu vois dans la cuisine, par exemple, le fait de varier d'une huile ou mettre du beurre ou mettre autre chose, ou de l'huile de coco ou des choses comme ça peut avoir un impact sur cet aspect-là quand on... Alors avant, après, pendant, je sais pas.
Alors sur l'aspect digestif, pas beaucoup. Alors c'est sûr que plus c'est riche en acides gras saturés, plus ça peut générer des soucis digestifs si on les prend avant et fort. Donc les acides gras saturés, ce sont les acides gras en général d'origine animale. Donc le beurre, la crème fraîche, voilà, ça c'est assez riche en acides gras saturés. Après, si c'est en consommation non excessive, c'est pas très grave. Si tu manges des frites au Saindoux, là, ça peut être problématique, quoi. Voilà. Après, le fait de varier les huiles, c'est vraiment très important, mais pour sportifs ou non sportifs, hein, pour vraiment varier les apports en acides gras essentiels, puisque l'huile d'olive, on va être riche en oméga 6, l'huile de noix en oméga 3. Donc, vraiment, de varier toutes les huiles végétales possibles, c'est très, très bien pour satisfaire tous les besoins de l'organisme en acides gras essentiels. Et donc, ça peut aider à la récupération, à la reconstruction musculaire, au renouvellement des cellules. Voilà, tout ça, c'est très, très important. Les acides gras essentiels, eh ben, ils sont essentiels. C'est qu'il y a une raison, sur la reconstruction de plein de choses, qu'on a besoin.
Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste parce qu'en plus, les huiles, il y en a plein. Et nos grands-parents, ils cuisinaient toujours avec la même huile de tournesol ou je sais pas quoi, qui grillait en plus, c'est pas possible. Et quand on va au rayon huile, l'autre jour, on a eu une discussion avec ma belle-mère et on lui a sorti de l'huile de lin. Elle avait jamais mangé d'huile de lin de sa vie ou peut-être elle essayait, elle le savait pas. Et quand on l'a mise au frigo, elle était en plus surprise, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais il y a un apprentissage en fait de tous ces produits. On peut les regarder. En plus, ils ont des goûts différents. Ils permettent de faire des choses totalement différentes. Même les vinaigrettes, on n'est pas obligé de faire la vinaigrette de notre famille depuis 30 générations, enfin.
Non, mais il faut varier au maximum et être curieux aussi des nouvelles choses. Donc c'est vrai que c'est bien de se balader dans un rayon et de découvrir de nouvelles choses. Après, faut faire attention toujours à l'ultra transformé, mais tout ce qui est assez neutre, utilisez, variez et éclatez-vous, quoi. Parce que comme tu dis, une vinaigrette juste huile, vinaigre et moutarde. Voilà, non, on peut varier les vinaigres aussi, parce qu'il y a 50 vinaigres différents. On peut varier les moutardes, on peut varier les huiles, on peut s'amuser avec plein de choses, avec d'autres condiments, avec des herbes aromatiques, faut être curieux et innovateur. Et en plus, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance d'avoir des émissions de télé qui peuvent vraiment
permettre d'avoir de nouvelles idées et d'éviter la monotonie, quoi. Mais toujours à tester avant course, quoi. Parce que si on innove juste avant une course, ça peut toujours poser problème.
Oui, c'est l'innovation. De toute façon, il faut faire ce qu'on appelle son expérience, hein. C'est faire la différence entre la théorie, ce qui pourrait passer, ce qu'on entend, parce que y a des gens dans le podcast qui disent ils mangent ça, ça et ça et tout. Par exemple, j'ai l'épisode avec Vanessa Morales quand elle dit qu'elle mange une pastèque pour manger le Kilimandjaro, salade de fruits et tout. Elle s'est entraînée pour le faire. Faut juste le rappeler. Avant le départ, elle mange 2 œufs, une salade de fruits, elle mange de la pastèque pendant la montée, elle bat le record de vitesse, etc. Mais elle s'est entraînée et elle explique dans l'épisode tout l'entraînement qu'elle fait, comment elle arrive à le faire, etc. Et elle l'a pas juste inventé comme ça, elle l'a pas juste fait au jour, oh, bah, tiens, je vais juste manger une pastèque, on va voir ce qui se passe.
Et puis, une autre personne qui essaye de manger la pastèque pour monter le Kilimandjaro, même s'il est habitué, il peut avoir un gros problème derrière, quoi. Donc, les tests sont vraiment super, super importants.
J'avais une dernière question sur tous ces trucs-là, quand même, de problèmes un peu digestifs. Il y en a certains qui vont se demander si on n'a pas moyen d'y. Alors, je vais pas dire faire un plâtre, tu vois, mais. Parce que, pourquoi
De
j'y pense?
colmater les fuites.
Oui, parce que j'y pense, parce que j'ai les images de Marine Leleux et ceux qui traversent la Manche à la nage, etc. Et je pense ceux qui nagent des longues distances qui disaient qu'elle avait mangé beaucoup de riz, justement, parce que elle passait 15 ou 16 heures dans l'eau. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et donc, il y a des tactiques quand même sur cet aspect-là, j'imagine.
Ah bah oui, c'est sûr que riz, carottes cuites et coings, c'est vraiment des aliments qui ont tendance à toujours resserrer, hein, d'éviter d'avoir des problèmes digestifs derrière. Après, il peut y avoir de la médicamentation si vraiment ça pose problème, hein. Je pense au fameux Smecta où il y a des gens qui, dès le départ, en prennent un parce qu'ils savent que ça va gêner derrière, quoi. Donc, ça peut arriver aussi. Mais oui, niveau aliments, riz, carottes cuites et coings, c'est vraiment le truc qui peut aider à ce que le tube digestif se tienne tranquille une paire d'heures.
Ouais, c'est pile les aliments à éviter quand ma fille est constipée, je sais.
C'est ça. Mais regardez voilà, ceux qui sont parents, regardez nos enfants et vous saurez ce qu'il faut manger, hein, parce qu'en général, c'est exactement ça.
Il y a des aliments, on le sait, on le voit quand le ventre se gonfle, on dit, ah, alors, attends, ça, il faut le laisser de côté, ça, il faut prendre, etc. Et pourtant, alors, on parle des enfants, parce que c'est intéressant, les enfants, on parlait du sucre aussi, les enfants. Alors, moi, ma fille, elle aime pas les bonbons, ça tombe bien. Puis, on lui en donne jamais, de toute façon, elle sait pas trop ce que c'est, mais les parties, les sucres, on parlait justement sur l'irritabilité, sur les choses comme ça. Je sais pas, est-ce que les bonbons, tu vois, les trucs comme ça peut provoquer des problèmes en tant que tel?
Oui, parce que y a certains bonbons qui sont très riches en FODMAP, et aussi, par exemple, les bonbons sans sucre, pour le coup, ils sont riches en édulcorants. Et donc, les édulcorants sont des polyols et donc sont fermentescibles.
Ah, quel bordel. On croit qu'on fait bien en mangeant un bonbon sans sucre et on se retrouve en fait avec un truc.
Et en fait, ça peut provoquer un problème digestif derrière, quoi. Donc voilà.
Ouais, j'ai envie de dire, et comment on s'en sort? On mange naturel, le plus naturel possible?
Le plus naturel possible. Et puis c'est comme tout, si on a mangé un bonbon parce qu'il nous donnait envie, et ben on en a mangé un, il nous a fait plaisir et c'est pas dramatique, quoi. Tant qu'on n'en fait pas une cure, tant que c'est pas tous les jours, tant que. Voilà, tout est dans la raison et dans le plaisir.
Alors, quand même, tu vois, pour finir, moi, j'essaye d'avoir un petit peu les petits trucs, les petites astuces. T'as dit que ce week-end, t'avais une compétition?
Oui.
Alors, je t'ai même pas demandé ce que tu faisais, parce que t'as parlé un peu de triathlon, j'imagine que c'est un triathlon.
Oui, je fais du triathlon.
Et ben alors, tu vois, l'athlète, là, qui est avant ton triathlon, comment tu remplis ton fameux petit réservoir à glycogène, là, les jours avant, etc. C'est quoi, toi, tes trucs?
Alors, le triathlon, là, ça va, c'était 1 heure et demie, donc ça n'a pas duré longtemps. Après, sur quand je fais de la plus longue distance, alors ce que j'aime bien faire en général, c'est de diminuer un peu les réserves lundi, mardi, mercredi. Donc, je réduis un peu la base féculent. Alors, pas, je ne me mets pas à sec hein, non plus, hein, faut pas rêver, mais je diminue un petit peu ma réserve de glycogène. En général, le mercredi, il y a une petite sortie, un petit entraînement qui va finir de retirer cette réserve. Et jeudi, vendredi, samedi, bah, je la re-remplis. Donc voilà, je mange des quantités, pas des quantités astronomiques non plus, hein, mais je mange quand même suffisamment. Alors, je tolère très bien le gluten, hein, donc suffisamment de pâtes, j'avoue. J'aime bien, je tolère bien les œufs, donc je mange des bowl cakes. Voilà. Je remonte ma réserve de glycogène aussi. Avec différentes astuces, voilà, comme les féculents, mais aussi tout ce qui est les petits déj assez complets, les collations assez complètes, et puis voilà, je remonte là-dessus. Après, sur la course, bah, en général, moi, c'est que quand c'est de la petite distance, hein, de la boisson sucrée. Parce que j'arrive très peu à manger sur de la petite distance. Donc voilà. Je m'hydrate suffisamment et ça passe.
Et on récup.
Et après, alors là, en récup, c'était les Ardennes. Donc il n'y avait que des friteries. Donc ma récup était pourrie. Mais en général, en récup, c'est plutôt une viande, une bonne dose de féculents et pas mal au niveau hydratation surtout.
Et c'est vrai ces histoires de fenêtre métabolique là que l'heure qui ou c'est quoi la demi-heure qui suit l'effort, on peut tout manger ou c'est quoi cette histoire-là?
Oui, il faut manger en fait. Il faut vraiment. Là, c'est comme tu dis, la fenêtre métabolique, c'est elle est grande ouverte. Il faut remettre les nutriments à leur place en fait, en gros. Donc, il faut privilégier au maximum donc l'hydratation. Et bon, il y a aussi, on parle pas des minéraux, mais sodium, potassium, c'est important d'y penser. Et les vraiment glucides et protéines pour recharger les réserves en glycogène et arrêter en fait la destruction musculaire en gros qu'il y a eu pendant l'effort quoi. Renouveler un petit peu tout ça.
Alors, tiens, comme tu parles de minéraux, ça me fait penser aux os, parce que, enfin, aux os, les os qu'on boit, hein, pas les os qui cassent. Les os, c'est vrai, alors, combien on voit de personnes avec cette petite bouteille de Saint-Yor, etc. C'est vraiment efficace.
Alors la ceinture après effort, on évite avant, parce que les bicarbonates avant effort, encore une fois, peuvent générer des problèmes digestifs. Mais après effort, c'est vrai que le fait que ça soit riche en bicarbonate, que ça soit riche en sodium, ça permet quand même de compenser les pertes. On les atteint pas à 100%, mais ça permet de compenser les pertes.
Il faut en boire combien en fait? Parce que c'est là où on se rend pas trop compte. Il y a un niveau en disant qu'il faudrait un verre pour X truc d'effort ou on sait pas.
Ça dépend de la chaleur, ça dépend des pertes. Pareil, il y a des gens qui transpirent énormément et d'autres pas du tout. Donc après, chez certains sportifs de haut niveau, il y a la pesée avant et après effort qui permettent de connaître en fait les pertes hydriques. Alors, on parlait de Djokovic tout à l'heure, mais sur des courts de tennis, s'il ne s'hydratait pas, on serait quasi à 6 litres de perte
Wow.
d'eau. Alors, c'est vrai qu'il s'hydrate. Alors, pareil, hein, sur le court de tennis, en plein cagnard, pendant plusieurs heures d'effort. Mais heureusement que ces gens-là s'hydratent correctement parce que bah, 6 litres, ils ne seraient pas là pour en parler, quoi. Donc
Oui.
ouais, ça peut être vraiment énorme les pertes hydriques. Donc, il faut vraiment les compenser au maximum. Et c'est vrai que les eaux riches en minéraux permettent de compenser les pertes.
Et alors, tu vois, j'ai deux trucs qui me viennent encore en tête là-dedans. J'avais mon coach de fitboxing, tu vois. Lui, il avait un aliment magique pour lui, c'était la patate douce. Allez, la patate douce cuite, et il me disait, tu sais, il mangeait ça entre les cours et tout, il avait fait cuire ça à la vapeur, il mangeait ça. Alors lui, il faisait pas de frites de patate douce à la noix de coco comme nous on l'a fait à la maison. Mais lui, il faisait ça, il en avait des boîtes, tu vois, comme ça, il mangeait ça entre les cours, etc. Et moi, c'est vrai, j'adore la patate douce, donc c'est pas un problème, mais elle a vraiment des vertus particulières.
Pas plus que les autres féculents. Hein. Elles, pour le coup, elles sont pauvres en FODMAP. Donc, si ça l'aidait, ça se trouve, c'est possible que ça l'aidait.
Ouais, tu vois, non, parce que il m'a jamais expliqué le pourquoi, mais lui, il savait que ça allait marcher et tout. Puis, vu de toute façon le sport qu'il faisait, je me suis bien dit qu'il voyait un intérêt. Et l'autre truc qu'il m'avait dit, il m'a dit, Bertrand, il faut que tu prennes des BCA après l'effort, tu verras, ça va te faire partir requinquer dans tous les sens, etc. Ça fait partie des débats. Et après, je te poserai une autre question sur un autre débat. Mais est-ce que ces trucs, la BCA qu'on voit et tout, là, comme ça, et qui viennent beaucoup aussi, on en voit beaucoup dans la muscu notamment, etc. Est-ce que pour l'endurance, par exemple, est-ce que c'est un truc qui important, utile?
Sur du long, oui.
Oui.
Sur des longs, longs efforts, oui. Je pense que vraiment il y a un intérêt parce que l'aliment. Alors, pareil, hein, je dis tout le temps qu'il faut privilégier notre alimentation la plus variée et équilibrée possible et éviter les complémentations et surtout les supplémentations parce que complément, ok, supplément, un peu moins. Mais en fait, il y a un moment donné où notre alimentation ne suffit plus à compenser tout ce qu'on perd dû à l'effort. Et donc, parfois, oui, la complémentation en BCAA peut être nécessaire.
Et l'autre débat qu'il y a beaucoup, c'est le hamburger après la sortie longue du dimanche. Ça, c'est un grand débat au club. Alors, je le pose à plein de gens. L'autre jour, et je rigole parce que j'ai vu une publication Facebook, et la fille, elle dit, ah, mais attends, t'as pas fait tout ça pour pas aller manger un hamburger à la sortie de ta sortie longue et tout. Est-ce que, parce que bah, après ce qu'on a dit, c'est peut-être pas le top pour la récup, même si psychologiquement, ça fait partie des moteurs qui peuvent marcher sur la motivation, etc.
La bière,
Voilà, comme la bière. Alors, est-ce qu'un hamburger frites bière en récup, c'est de la récup vraiment pour le corps ou est-ce que c'est vraiment que de la récup pour l'esprit?
fait beaucoup pour l'esprit. Après, un hamburger maison, si ton pain est de bonne qualité, si tu as du vrai fromage et pas du truc chimique, si tu as un vrai steak, 5% de matière grasse, voilà, si une petite sauce maison et tout. Pourquoi pas, hein. Après, il faut éviter d'accumuler le hamburger plus les frites plus la bière. Il faut savoir qu'en parlant de la bière a tendance à déshydrater. Donc, ce qu'on boit en bière, on devrait le boire en double en eau.
Ah.
Par exemple, si tu bois 25 centilitres de bière, il faut que dans la foulée, tu bois 20 ml d'eau parce que sinon, tu vas continuer la déshydratation. Donc, on a l'impression que ça réhydrate, mais non, ça déshydrate.
Et voilà, et ben comme quoi, hein, il y a toujours des trucs comme ça qu'on découvre en supplément.
Mais c'est vrai que la petite bière après l'effort, elle est pas mauvaise.
Tu disais dans les Ardennes, t'as fait un triathlon, il y en avait une avec dans les friteries.
Y en avait dans les friteries. Je ne l'ai pas bu, moi. J'ai été sage. J'ai mangé mon américain frite, mais je n'ai pas bu ma bière. Mais voilà, après. Si, comme tu dis, si on fait tout ce sport aussi, on n'est pas en haut niveau et on espère se faire aussi plaisir. Et encore, hein, quand on entend Vincent Louis qui se fait aussi son cheat meal avec pas mal de choses, bah, voilà, il se le fait. Et pourtant, c'est un athlète de haut niveau, donc on peut se permettre des petits plaisirs de temps en temps. Tout est dans la raison et voilà.
Et puis moi, je pense qu'avec la dépense énergétique qu'on a, en plus, il y a des choses qu'on est capable de tolérer. Moi, j'en ai la preuve, hein, c'est que quand j'ai arrêté de bouger mon corps là pendant les 6 mois à cause d'une opération, tout d'un coup, il y a un truc qui a cloché, tu sais, car
C'est ça.
les espèces d'équilibre, il marche plus tout à fait bien. Et bizarrement, depuis que j'ai repris le sport, ça va mieux. Je me rends compte que ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai, parce qu'on s'en rend pas compte. On est un peu pointilleux quand on parle de ces sujets-là, etc. Mais on se rend pas compte que avec le sport, on dépense beaucoup de calories. et que c'est vrai qu'on peut se permettre des choses.
On peut se permettre des choses après, voilà, tant que c'est raisonnable et tant qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus si on veut faire une performance derrière, quoi. Après, si tu pars sur un 10 km mais que tu t'en moques, que tu as juste envie de courir tes 10 km, mange ce que tu veux la veille, quoi. Non, mais ça dépend de ton objectif, ça dépend de tout. Après, si t'as aucune contre-indication, si tu te sens bien dans ta peau, voilà, mange ce que tu veux, quoi. Il pas de, faut arrêter de vouloir mettre les gens dans des cases et voilà.
Ouais. Moi, je dis tant que ça dérange pas la course, etc. Tant que ça nous oblige pas à faire à l'arrêt sur un arbre au bout du troisième kilomètre. Mais j'en ai parlé même avec des très bons des coureurs de haut niveau hein, dans d'autres épisodes qui ont eu ce problème-là. Et c'est pour ça que je voudrais rassurer tout le monde, c'est que ça arrive à plein de gens ces histoires-là. Il y a plein de trucs qui passent pas. Vanessa nous avait raconté. Je parlais de Vanessa Morales. Elle a, si vous réécoutez l'épisode, elle a raconté une anecdote où ça lui est arrivé très rapidement et tout le monde à qui ça arrive. Alors après, il y en a qui ont des espèces de petits produits magiques. Hein. Par exemple, tiens, je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire du jus de concombre. T'as pas entendu parler de ça? Ah bah tu vois.
Non.
C'est Cécile Bertin, tu vois, dans un épisode précédent qui nous disait que les Américains, ils arrivaient avec leur eau de concombre, leur jus de concombre, ça faisait ça. Tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'on m'a dit? Du jus de betterave.
Alors, jus de betterave, il paraît, hein, par contre, je mets des guillemets, que ça permettrait d'augmenter la VO2 max.
Ouais. Alors, pour te dire, sur une course, j'ai eu un petit truc avec du jus de betterave dedans, tu sais, des mélanges avec jus de betterave, spiruline, je sais pas quoi. J'ai pas constaté un gros changement, mais par contre, une des filles du club m'a dit, il paraît que la betterave, ça augmente la VO2 max, etc. et tout, j'en prends avant, etc. Et donc, je crois qu'il y a aussi beaucoup de marketing dans ces histoires-là, quand on regarde un petit peu les produits, etc. Parce qu'on a envie d'être rassuré, c'est-à-dire qu'on court, on fait plein d'efforts, on a envie d'être rassuré. Et j'imagine, t'as plein de tes clients qui viennent te voir aussi, ils cherchent un petit peu les trucs, les astuces, puis en fin de compte, il faut aussi beaucoup les rassurer sur tout ça.
Ouais, ouais, c'est vraiment les croyances alimentaires aussi, beaucoup, hein, tel aliment, bah, comme l'histoire du gluten, mais tel aliment va provoquer une contre-performance physique ou tel aliment justement fait augmenter les performances physiques. Vraiment, ça, c'est un peu à bannir parce que tant que l'alimentation est très variée et très équilibrée et riche en produits très naturels, il n'y a pas d'énorme effet à part si des fois, comme je disais tout à l'heure, on est obligé de complémenter parce que la personne est anémiée, on n'arrive pas à avoir des bons apports en fer, par exemple. Bah, là, on est obligé de complémenter un petit peu. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des cas, c'est assez minime hein, quand même. Hein, donc,
Puis il faut se méfier un peu des modes aussi, parce que j'ai lu un jour un article de Runner's World, je crois, qui parlait, tu sais, c'était qui mangeait des gâteaux, du sucre et tout, tu vois, mais un peu dans la logique cétogène aussi, et en disant, j'ai jamais couru aussi vite depuis que je mange plein de gâteaux. Alors, bien sûr, quand tu regardes ce truc-là, tu te dis, oh, je vais aller à la boulangerie manger plein de gâteaux, etc. Et je suis sûr que t'as des gens qui arrivent, qui ont lu des articles comme ça, ou qui voient passer des vidéos, qui ont dit, bah tiens, lui, il est passé assez tôt, est-ce que je dois faire ça, etc. Il faut le dire, en plus, c'est super contraignant, tout ces trucs-là, quoi.
Ah bah, le régime cétogène, c'est vraiment catastrophique au niveau contrainte, je trouve. Et puis, ça reste de la courte durée. Et quand tout s'arrête, bah, tout s'arrête. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué, que ça soit psychologiquement, hein, parce que si la personne a perdu du poids et qu'elle en reprend, on les ramasse à la petite cuillère. C'est très compliqué d'avoir une vie sociale hein, parce que quand on est sur des régimes restrictifs, bah tu vas pas manger chez ton copain un samedi soir parce que tu sais qu'il va pas faire le menu que tu as besoin. Donc faut éviter toutes ces dérives là et rester sur des choses très simples. Et voilà, mais j'ai envie de dire, c'est comme je vais peut-être me faire des ennemis, mais toutes les influenceuses qui vont prôner les cachets qui font maigrir, c'est un sketch, quoi, parce que oui, tu perds 7 kilos en une semaine, mais tu perds quoi? Un os, quoi, c'est pas possible. donc après, ces cachets-là, je dis pas qu'ils n'ont aucun effet, mais ils ont plus un effet placebo où tu prends un cachet, donc tu fais attention à ton alimentation et donc tu maigris, quoi. pour moi, c'est le seul effet qui se.
Ah bah là,
Bon, là, je pense que je viens de me faire quelques ennemis.
Là, tu viens de démolir mon mythe. Moi qui pensais avoir acheté une petite boîte avec un brûleur de graisse en me disant « Ouais, je mange ça, j'ai plus de graisse qui va avoir sur le truc et tout. Attends, c'est pas pour... Non, 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 s'il te plaît. »
Pardon. mais alors, des fois, j'ai déjà vu des patients, je dis « Mais continuez de les prendre parce que je sais que psychologiquement, ils le prennent. Donc, ils font plus attention. » Et donc, ils s'efforcent à manger plus équilibré et tout. Ils sont persuadés que c'est ce cachet qui fait maigrir. Et en fait, pas du tout. C'est leur changement à eux. Mais ça, après, il faut qu'ils en prennent conscience parce que ces cachets-là, ils ne peuvent pas les prendre à vie, quoi. Donc,
Ouais. Mais je trouve que c'est une très belle conclusion, tu sais, en fait, de dire que finalement, ce petit truc-là, cet effort qu'ils vont faire, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais qui finalement les amène à autre chose et qu'à partir de là, c'est là aussi où finalement ils retrouvent un équilibre plus complet et où ils sentent beaucoup mieux. Bon, je ne peux pas finir cet épisode sans te poser ma question traditionnelle de savoir si t'as pas une petite recette, tu vois, alors ça va être compliqué parce qu'entre tout ce qu'on vient de dire, entre les trucs qui fermentent, les trucs du sucre, les trucs ça et tout, est-ce que t'as pas une petite recette à toi, tu sais? Alors ça peut être avant, après un entraînement, un truc chouchou, un cheat meal ou je sais pas quoi, un petit truc qui te fait plaisir, tu sais, et qu'on pourra partager.
Un petit truc qui me fait plaisir, il y en a tellement. Je suis une grande amatrice de bonne alimentation. Mais après, ouais, la petite recette, comme ça, prise au dépourvu, j'ai un peu de mal à trouver. Après, moi, le matin, le truc qui passe bien, ça va être le fromage blanc avec le muesli, avec un petit verre de jus d'orange, mon petit café, quelques noix de cajou en général en plus. Et voilà, ça, je suis sûre que je tiens pour la matinée. Donc, ça, c'est... Et puis le chocolat, hein, bien sûr, qui va dedans.
Team chocolat, bien sûr.
Team chocolat. Et puis, après... Lors des efforts, varier le sucré et le salé. Ça peut être quelque chose qu'on ne pense pas forcément. Alors, on commence à en trouver un petit peu sur certains ravitaux. Mais c'est vrai que le sucré, varier sucré et salé, ça permet un peu de désaturer au niveau du goût du sucre. Parce qu'on a besoin de sucre, mais il y a un moment, le sucre, il ne passe plus. Le corps, il dit, c'est bon, tu t'en brûles du sucre, tu m'en apportes, mais ça va bien 5 minutes. Donc, c'est pour ça que des fois, de varier avec le salé. Et le salé, en plus, va apporter du sodium, donc ça va compenser un peu les pertes. Et puis, la récup, j'ai envie de dire, voilà, c'est sûr que c'est bien. Alors, si on a envie de faire bien pour la récup, c'est de faire une petite collation équilibrée, comme j'ai dit, avec protéines et glucides. Et après, si on a envie de se faire plaisir avec le hamburger, bière, allez-y, quoi, faites-vous plaisir.
Et ben voilà, et ben écoute, on va rester sur cette belle conclusion parce que comme ça, au moins, et tout le monde est content en fait. Il y a ceux qui mangent bien qui sont contents, il y a ceux qui mangent moins bien qui sont contents. Ceux les gourmands, on a eu notre chocolat, ouais, tout. Moi, tu m'as validé mon beurre cacahuète, ça me va très bien, tu sais. Moi, je suis, mais c'est vrai, et je le dis en plaisantant, mais enfin, c'est pas qu'une plaisanterie, c'est vrai que ça fait partie de, c'est un des piliers de mon alimentation. Alors, et j'en mange pas en quantité énorme hein, non plus, mais les pots descendent quand même relativement vite, mais ça fait partie des choses qui surprennent les gens, mais je dis, il faut bien choisir, hein, parce qu'après, il y a des trucs transformés dans tous les sens, etc. Et l'autre jour, je me suis arrêté dans un rayon. J'ai vu des produits, des pâtes à tartiner au chocolat pour les gamins. J'étais scandalisé du contenu qu'il y avait dedans. Le chocolat n'arrivait qu'en quatrième ordre dans la liste des ingrédients. Le premier, c'est de l'huile, sucre, et puis je sais plus ce qu'il y avait, puis chocolat. Je dis, non, pas possible. Et je dis, regardez ça et laissez-moi d'abord certains aliments, etc. Et on en reparle un petit peu après.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça. C'est super important. Et donc, les beurres de cacahuète, juste beurre de cacahuète, juste de la cacahuète mixée. Et en plus, à faire soi-même, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'un bon mix.
Voilà. Alors, pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, si on a envie de te contacter, si on veut voir tes conseils, etc.
Alors, le plus simple, c'est quand même Instagram. Hein. Ma page, elle est assez active et c'est Hello Diète en Basket. Hello-du-bas Diète en Basket.
Oui, alors je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode. Et puis, je suis sûr, de toute façon, les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent t'envoyer un petit message.
Avec plaisir. J'y répondrai.
Et donc, on a dit que tu avais une compétition le week-end. Tu prépares quelque chose de particulier? Parce que moi, j'aime bien savoir un petit peu.
Ben là, je vais avoir un trail nocturne le 23 octobre à Nancy. Donc, le trail des Lumières, c'est un 21 km. Et j'en enchaîne un au mois de novembre aussi nocturne. C'est un 17 km. Donc, Et puis, mais bon, pour l'instant, là, on va repartir sur la saison des trails parce que la saison des triathlons commence à être finie, même si elle n'a pas beaucoup commencé. Donc, voilà.
Voilà.
Mais oui, j'aime autant la course à pied que le vélo. La natation, un petit peu, bah, je suis moins à l'aise, mais je la prépare quand même.
Eh bien, écoute, je mettrai tous les liens, tu vois. J'étais en train de regarder ton site. Hop, je fais un petit copier-coller pour mettre ça dans les notes de l'épisode. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ces conseils, ton sourire et tout. Puis on a appris plein de trucs. Je pense que c'est bien d'avoir une vision aussi vraiment précise de ça. Et puis décomplexer un petit peu sur se dire, ah là, j'ai pas mangé parfaitement, etc. et tout. Parce qu'on se fait du mal, en fait.
Mais oui, faut vraiment déculpabiliser. Et plus on culpabilise, et plus la prise alimentaire va avec. Donc, vaut mieux se faire plaisir et déculpabiliser. Et ça marche beaucoup mieux comme ça.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour tous les conseils.
Merci à toi, c'est avec plaisir.
Et nous, on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, ce sera la petite surprise, comme ça. On verra avec quelles sont les particularités, quels sont les petits secrets, parce qu'il y en a certains qui se trimballent avec des trucs un peu... genre des haribots dans les sacs, etc. et tout. Donc je te demande pas ton avis dessus. Ah, on verra ce que les uns et les autres trimballent avec eux. En tout cas, merci beaucoup Elodie pour tous ces conseils.
Merci à toi, avec plaisir.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.